Bienvenue, chers auditeurs. Le thème que nous allons aborder au cours de ces conférences est la Bible, plus précisément l'histoire des patriarches. Je commence par une citation du prophète Isaïe au chapitre 2. La loi sortira de Sion, la parole de Dieu sortira de Jérusalem. Sion et Jérusalem ont un rôle particulier dans la diffusion de la parole de Dieu. Jérusalem, vous le savez, c'est l'église mère avec laquelle toutes les autres églises sont en communion. C'est dire que Jérusalem nous accompagnera au cours de ces discussions. Je commence par une introduction générale et par une petite statistique. Une enquête faite par l'Alliance biblique française en 2009, révèle que 37% des Français possèdent une Bible dans leur maison. Mais sur ces 30%, 8% seulement la lisent assez régulièrement. En même temps, les Français reconnaissent souvent l'intérêt de la Bible. Et 46% estiment que l'intérêt général de la lecture de la Bible et surtout d'ordre religieux et spirituel. Tandis que 43% considèrent que l'intérêt de la Bible est culturel, littéraire, voire historique. Mais vous le savez mieux que moi, rien de plus menteur qu'une statistique. Cependant, la France est le pays le plus touché par la disparition du religieux dans l'espace public. Et peut-être par ricochet également dans l'espace privé. La Bible, comme tous les textes anciens, est susceptible de différentes approches. Tout d'abord, une approche scientifique qui n'exclut pas une approche poétique, voire symbolique. D'autres méthodes peuvent lui être appliquées sans qu'elle ne s'exclue. L'approche scientifique de la Bible déborde aujourd'hui le monde des savants, parce que des livres de divulgation se répandent un peu partout. Je n'en citerai que deux. Le premier livre, Asher Zilberman et Israël Finkelstein, le titre du livre c'est « La Bible dévoilée », ces deux auteurs voulaient répondre aux questions suivantes. Pourquoi la Bible a été écrite ? Que savons-nous des premiers patriarches? Quand est-ce que le monothéisme est apparu? Et comment Israël est entré en possession de la terre promise? Vous voyez que les questions ne manquent pas. Finkelstein et Zilberman puisaient leurs arguments dans les découvertes archéologiques les plus récentes. Et ce n'est pas là qu'ils trouvaient une véritable réponse à toutes ces questions. Et 16 ans après la parution de son ouvrage « La Bible dévoilée », Finkelstein refait maintenant un autre livre intitulé « Aux origines de la tradition » et il fait une nouvelle mise au point des découvertes les plus récentes. Deux évolutions fondamentales sont présentes dans son travail. D'abord, l'utilisation des méthodes scientifiques les plus modernes, comme l'imagerie multispectacle ou l'analyse moléculaire, qui ont permis des avancées considérables dans le domaine des fouilles archéologiques. Les techniques incluent l'utilisation d'un radar à pénétration de sol pour explorer ce qui se passe dans les endroits que l'archéologue ne parvient pas à creuser, et l'analyse des particuliers de quartz pour déterminer l'âge de la structure dans laquelle elles ont été trouvées. Mais c'est du travail vraiment de spécialiste. Et tous les résultats sont introduits dans un programme informatique qui crée un modèle à trois dimensions. Donc ça, c'est une première évolution. La deuxième évolution, c'est qu'il y a un intérêt croissant pour l'analyse critique exégétique du texte biblique lui-même. Voilà pourquoi Finkelstein collabore avec le bibliste Thomas Römer, qui est un grand exégète bien connue dans le monde des savants. La prise en considération de la dimension historique du texte biblique est opposée à la mise au jour de son sens théologique, moral et spirituel, hérité de la tradition. Voilà donc une première approche, l'approche archéologique. À cette première approche, on peut opposer la lecture canonique des Écritures. Je vous cite un texte de Vatican II, la constitution dogmatique Dei Verbum, sur la parole de Dieu. Donc au numéro 12, Dei Verbum écrit « La Sainte Écriture doit être lue et interprétée à la lumière du même esprit que celui qui la fit rédiger. Il faut, pour découvrir exactement le sens des textes sacrés, porter attention au contenu, à l'unité de toute l'Écriture, eu égard à la tradition vivante de toute l'Église, et surtout à l'analogie de la foi. » Voilà la citation du paragraphe 12 de Dei Verbum. Le caractère canonique des traditions bibliques invite à prendre en considération, dans leur interprétation, deux éléments complémentaires. D'une part, le fait que le canon a été délimité et que cette délimitation soit le résultat d'un long processus de construction. D'autre part, le fait que le canon des Écritures soit considéré comme unifié et recouvre de ce fait même une unité de sens. Et le principe de sélection des traditions, de leur regroupement dans un canon, a été avant tout théologique, faisant écho à l'identité croyante des communautés qui ont contribué à la construction de ce canon. Pendant, cette unité ne signifie pas le refus de la diversité. Le texte unifié du Pentateuque est théologiquement très divers. Et d'autre part, il circule sous des formes textuelles très diversifiées. Nous savons, pour la Bible, nous avons tout d'abord le texte proto-massorétique. Nous avons une traduction grecque qui a été faite au IIIe siècle avant le Christ, la Septante. Nous avons une version samaritaine du Pentateuque. Nous avons le Pentateuque réécrit à Qumran et nous avons la version synagogale qu'on appelle le Targum. Vous voyez que le processus de construction du canon des Écritures est à la fois un processus historique et théologique. La construction du texte à travers des siècles va de pair avec l'élaboration d'une synthèse théologique. Dieu révèle à son peuple un enseignement que les Juifs appellent la Torah, qui est sa règle de foi. Le texte canonique intègre donc d'anciennes traditions, mais il en propose toujours une réinterprétation théologique. À l'intérieur même de l'Écriture sainte est mis en évidence un processus d'exégèse intra-biblique. Et le rapport Écriture et tradition joue à l'intérieur même du texte biblique. Et c'est ainsi que la constitution d'un canon va de pair avec la construction d'une identité historique, d'une identité sociale, théologique. Le texte biblique n'a pas pour objet l'exposé scientifique d'une vision du monde. Le livre de la Genèse n'est pas du tout un livre scientifique. Il est ordonné à la révélation du salut. C'est l'histoire du salut qui intéresse la Bible. Vous voyez donc qu'il n'y a pas de concurrence ni de conflit de compétences entre les sciences naturelles et l'exégèse biblique. Les données de l'exégèse biblique doivent être articulées avec les affirmations de la tradition catholique, avec l'interprétation des pères de l'Église. Je vous cite un auteur du Moyen-Âge, Hugues de Saint-Victor, qui affirmait « Toute l'Écriture constitue un livre unique. Ce livre unique, c'est le Christ. La Bible parle du Christ et trouve dans le Christ son accomplissement. » Vous savez qu'un des objectifs assignés par Vatican II à la restauration de la liturgie était de promouvoir le goût de la Sainte Écriture. Et la nouvelle évangélisation passe par l'étude, par l'annonce de l'Écriture. C'est évident. C'est un retour aux racines qui est exigé. Et parmi les acquisitions les plus importantes de Vatican II, il y a la redécouverte de la valeur propre de l'Écriture dans la vie ecclésiale. L'Écriture doit unifier les milieux essentiels de la vie de l'Église. La liturgie doit faire résonner la voix de l'Esprit-Saint. Et Dieu vient dans l'Écriture au-devant de ses fils et s'entretient avec eux. C'est pour ça que la prédication doit être nourrie et guidée par l'Écriture. Et toute la théologie doit se baser sur la parole de Dieu. Les pères ont répété plusieurs fois que l'étude de l'Écriture doit être l'âme de la théologie. Et même la vie chrétienne ordinaire des fidèles doit être marquée par la fréquentation priante de l'Écriture. Ah, donc le Concile nous l'a rappelé. Première question préliminaire à laquelle il faut répondre, qu'est-ce que c'est que l'Écriture? Comment elle se définit elle-même? De nombreux symboles ont essayé d'en cerner les pourtours. Dans le livre de la Sagesse, l'Écriture est comparée à la manne, une véritable nourriture que Dieu donnait quotidiennement à son peuple. L'Écriture est comparée à un médicament qui nous guérit de nos blessures. Pour le livre de Ben Sira, les commandements sont un trésor à garder. En Ben Sira, au chapitre 24, la loi, la Torah, est comparée aux quatre fleuves du paradis qui doivent irriguer la terre, sinon la terre deviendra un désert. Pour le psaume 118, la parole de Dieu est une lumière qui doit illuminer nos pas. Et pour le psaume 12, les paroles de Dieu sont comme de l'argent. L'argent qui a été purifié cette fois. À Qumran, dans l'écrit de Damas, l'Écriture est comparée à un puits qu'ont creusé ceux qui se sont convertis. Donc c'est l'eau vive qui est importante, sinon les gens vont mourir de soif. Pour l'auteur de la lettre aux Hébreux, l'Écriture est un glaive à deux tranchants et qui pénètre jusqu'à la moelle de l'âme. Pour Philon d'Alexandrie, un philosophe du 1er siècle, dans son ouvrage intitulé « La vie contemplative », l'Écriture est un miroir qui nous renvoie à notre propre image. Vous voyez que la richesse des symboles signifie que l'Écriture ne peut pas se réduire à n'avoir qu'une seule signification. La tradition juive affirme que l'Écriture a 70 sens. Ce qui est important, c'est que le christianisme n'est pas une religion du livre. Le christianisme, ce qui est important, c'est la personne vivante de Jésus. La Bible, bien sûr, se présente comme un livre qui exige une interprétation, mais cette interprétation doit conduire à la rencontre avec la parole définitive de Dieu, au Christ. Donc, il faut mettre en lumière un type d'herméneutique, c'est-à-dire d'interprétation christologique, puisque tout est orienté vers la venue du Messie. Deuxième problème préliminaire, comment lire les Écritures? La lecture juive, elle est plurielle. Vous avez les textes de la Mère Morte, le Qumran, qui emploie la méthode du pêcheur. Le pêcheur qui cherche toujours à actualiser le texte. Que veut dire ce texte pour moi aujourd'hui? Les pharisiens ont exploité une autre méthode de lecture, le Midrash. L'Écriture a deux sens, un sens littéral et puis un sens spirituel, le Midrash. Il faut creuser le texte pour arriver à l'eau vive. Et puis il y a le Targum, qui est une traduction de la Bible en araméen, qui est justifiée par différents commentaires. Et ce Targum était en usage dans les synagogues de Galilée au 1er siècle. Rien de semblable dans le judaïsme alexandrin, car le commentaire de la Bible était intégré déjà dans le texte. Voilà pour la lecture juive de la Bible. Il y a, à côté de ça, une lecture chrétienne. Saint Paul, dans la deuxième lettre à Timothée, énonce un principe de lecture fondamental. Toute l'Écriture est divinement inspirée, utile. utile pour enseigner. La Bible est l'œuvre de l'Esprit. Elle est le lieu de la présence, de l'action de l'Esprit. La parole humaine, des écrivains bibliques, bien sûr, elle est la parole que Dieu nous adresse aujourd'hui. Il s'ensuit que la Bible a un sens divin, un sens plus profond que son sens historique. C'est le sens voulu par l'Esprit, le sens spirituel. En cela, la Bible est très différente de l'Iliade, de l'Odyssée, d'Homère. Toute l'Écriture est inspirée et utile pour enseigner. Et Jésus, de son côté, renvoie régulièrement la parole de Dieu comme la seule autorité. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, il dit « Vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Ainsi qu'il répond à ses détracteurs. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 3, l'auteur ne mentionne pas David comme l'auteur du psaume 95, pardon, mais affirme « Selon que le Saint-Esprit a dit aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Aujourd'hui, le temps présent qui est remarquable, ce n'est pas simplement du passé que le psaume parlait, mais c'est de l'aujourd'hui. Et il est vrai que certains textes sont accomplis dans le Christ, mais cela n'enlève rien à leur sens actuel. Donc à propos de l'histoire biblique vécue durant les 40 ans dans le désert, saint Paul écrit « Ces choses sont arrivées pour vous servir d'exemple. » Première lettre aux Corinthiens, chapitre 10. Dieu a inspiré ces récits pour que nous sachions en tirer des leçons pour nous-mêmes, par des exemples ou des contre-exemples, parce que le passé doit éclairer notre présent. Puisque la Bible est inspirée, il faut donc un éclairage qui dépasse les simples réflexions ou celles des spécialistes. Dans son discours d'adieu, Jésus a promis que l'Esprit Saint vous enseignera toutes choses. Ce qui veut dire que l'homme laissé à sa seule nature n'accepte pas ce qui vient de Dieu. Et ce principe n'évacue pas le fait que Dieu ait aussi accordé des dons à son Église pour l'aider à déjouer les ruses et les tromperies des hommes. Finalement, il faut rappeler que toute l'Écriture est orientée vers la venue du Messie. Prophéties messianiques sont fondamentales. Et Jésus affirme au chef religieux des Juifs, « Les Écritures me rendent témoignage. » La lettre aux Hébreux commence ainsi. « Après avoir parlé autrefois au Père par les prophètes, Dieu nous a parlé aujourd'hui par son Fils. » Et le Nouveau Testament va nous montrer que les prophéties s'accomplissent dans le Christ. Les oracles messianiques de Isaïe au chapitre 7, de Isaïe 52, sur le psaume 22, sur le serviteur. Ces oracles sont cités dans le Nouveau Testament. Pour saint Jean, la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Parce que Jésus est l'agneau, le temple, le berger. Il accomplit tous les textes de l'Ancien Testament. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit que dans l'Ancien Testament, nous trouvons des ombres et des images de la Nouvelle Alliance en Jésus. L'ensemble de l'Ancien Testament, finalement, va trouver son accomplissement en Jésus. Et tous les textes ne se comprennent qu'à la lumière de son enseignement, de sa mort, de sa résurrection. Pour éviter tout équivoque, il faut rappeler que la Bible est avant tout une histoire du salut et non pas l'histoire de l'humanité, je le répète. Après la beauté de la création, le livre de la Genèse aborde la grande rupture avec Dieu suite à la désobéissance d'Adam et d'Ève. Mais un plan de salut est dévoilé à travers la descendance d'Ève qui doit écraser la tête du serpent. La lignée d'Adam, de Seth, de Noé, de Sem, est associée à la bénédiction qui aboutit finalement au personnage fondamental d'Abraham, Toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Et la promesse se prolonge avec Isaac, Jacob, Joseph, avec Moïse et David. Et elle va passer par un peuple appelé arraché aux ténèbres de l'Égypte, sanctifié par le sang d'un agneau, où Dieu lui-même vient faire sa demeure dans une tente. Et tous les rituels des sacrifices, les lois de pureté de la Bible lui enseignent les chemins de la sainteté. Israël est en marche vers la terre promise qui doit être le lieu de repos. Cette première partie de l'histoire d'Israël pointe vers une autre rédemption que celle de l'esclavage d'Égypte, vers le sacrifice d'un agneau qui est plus parfait, vers une demeure, une habitation de Dieu en esprit, plus réelle que la présence de Dieu dans le tabernacle de jadis, et la conquête du pays de Josué à Samuel montre un achèvement dans le roi David, David qui devient loin du Seigneur, le Messie. Les psaumes vont développer ce thème, mais laissent transparaître un Messie beaucoup plus glorieux, dont le règne ne cessera jamais. Les prophètes, par leur insistance sur la nouvelle alliance, ou la venue du jour du Seigneur, annoncent l'ère nouvelle que le Messie va ouvrir. Saint Pierre, dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, ne s'est pas trompé lorsqu'il a affirmé que le jour du Seigneur est arrivé. Même si la pleine mesure du royaume ne se manifestera pleinement que lors du retour de Jésus. Dans cette introduction, il faut rappeler certains noms qui sont vraiment très importants pour la connaissance de l'Écriture. Premier nom qu'il faut rappeler, c'est celui d'Origène. D'Origène, nous sommes au IIe siècle, en 185, et mourra en 253. Origène est connu parce qu'il est le fondateur de l'école biblique de Césarée. Et en partant de la dichotomie de saint Paul entre la lettre et l'esprit, il va ouvrir la voie à une lecture chrétienne de la Bible, dans une recherche d'un sens spirituel qui se voile derrière le sens littéral du texte biblique. Le présupposé de cette lecture est évidemment la donnée théologique de l'inspiration scripturaire. Origène parviendra à distinguer trois sens de la Bible. Un sens littéral, un sens historique, deuxième, un sens mystique, sens relatif à l'histoire du salut qui s'est accompli dans le Christ, et troisième sens, le sens moral, qui touche l'application pratique, le plan éthique. Nous avons là l'origine de la doctrine qui sera reprise au Moyen-Âge des quatre sens de l'Écriture. On rajoutera un autre qui va caractériser tout le Moyen-Âge. Il s'agit donc d'un schéma d'approfondissement progressif du sens du texte biblique. Voilà donc ce premier personnage, Origène, qui a un travail considérable et dont les œuvres sont heureusement traduites dans presque toutes les langues actuellement. On peut dire que c'est le plus grand exégète de tous les temps. Je dis qu'au Moyen-Âge, il y aura les quatre sens de l'Écriture qui seront développés, le sens littéral, qui va parler des événements, il y aura le sens spirituel, le sens allégorique parfois, le sens moral, et il y aura le sens anagogique. Anagogique, ça veut dire eschatologique, qui va ouvrir l'espérance du croyant vers les réalités dernières. C'est la perspective sur la vie future grâce à l'espérance chrétienne. Voilà donc les quatre sens que tout le Moyen-Âge va développer. Un retour en arrière, un autre nom très important, c'est celui de saint Augustin. Saint Augustin, un traité d'interprétation de l'Écriture, est connu sous le nom de De Doctrina Christiana. Et il rappelle que la raison d'être de l'Écriture, c'est de donner à l'homme un moyen de revenir à l'éternel Il va souligner constamment le lien qui existe entre l'écriture et l'incarnation. Je vous cite un texte de son commentaire des psaumes. Ne nous étonnons pas si par condescendance à notre faiblesse, Dieu s'abaisse jusqu'à la dispersion de nos sons humains. En effet, il s'abaisse jusqu'à assumer l'infirmité de notre corps. Vous voyez le rapport entre l'écriture et l'incarnation. Un dernier nom qu'il faut absolument mémoriser, rappeler, celui de Saint Jérôme, le traducteur de la Bible en latin, à Bethléem. C'est le pape Damas qui l'a envoyé pour traduire la Bible en latin parce que les gens ne parlaient plus le grec. Il faut absolument que le peuple de Dieu soit en mesure de lire et de comprendre l'écriture. Saint Jérôme est célèbre pour son affirmation « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ ». Voilà donc quelques noms importants, Origène, Augustin, Jérôme. On repasse maintenant au Moyen-Âge de nouveau. Et un terme qui sera déjà repris par Origène, le terme de « lectio divina », Lectio divina, la lecture sapientielle, et qui sera fondamentale parce que l'écriture doit être une connaissance amoureuse du Christ. L'écriture doit être une nourriture pour la foi. Cette lectio divina a commencé dans les milieux monastiques, mais elle s'est développée également dans les universités grâce à la lectio scholastica, qui atteindra vers la fin du XIIe, début du XIIIe siècle, le monde universitaire. Et le texte biblique sera lu, utilisé pour soutenir des positions théologiques déterminées. Donc c'est une lecture qui est attentive au sens littéral, qui apparaît comme le seul à fonder la théologie. Il suffit de rappeler les noms de Thomas d'Aquin et de Saint Bonaventure. Je vous cite un texte de Guillaume de Saint-Thierry, un ami de Saint Bernard, qui rappelait aux moines un principe fondamental de lecture des Écritures. Il faut lire la Bible dans l'esprit où les Écritures ont été composées. Tu n'entreras jamais dans la pensée de Saint Paul si tu ne t'imprègnes pas de son esprit. Jamais tu ne comprendras David si ta propre expérience ne te revêt des sentiments exprimés par les psaumes. Vous voyez que l'esprit du lecteur doit vivre en profonde communion avec l'esprit de Dieu. Donc c'est la participation au même esprit qui permet de lire et d'interpréter les Écritures. Un petit saut en avant, passons au XVIIe siècle, nous avons la figure de Spinoza qui va introduire une lecture rationnelle de l'Écriture. Spinoza était un juif séfarade, mais pour lui, qui est l'initiateur de la critique biblique, tout problème biblique doit être résolu par les seules ressources de la raison. Les sciences bibliques doivent devenir alors des sciences philologiques, des sciences historiques. Elles doivent ignorer l'ouverture sur la transcendance, exclure l'ingérence de la foi. Vous voyez que l'exégèse critique doit être méthodologiquement athée. La religion doit retrouver les limites de la raison. Pas question de rechercher un sens spirituel à l'écriture. Et à la suite de Spinoza, d'autres chercheurs comme l'oratorien Richard Simon et Jean Astruc vont soulever aussi les problèmes que pose la Bible en matière de science, en matière d'histoire notamment. Dans son ouvrage intitulé « L'histoire critique du Vieux Testament », Richard Simon va introduire ce qu'on appelle la méthode historico-critique pour l'étude du Pentateuque. À cette époque est caractérisée par une nouvelle prise en considération du sens littéral et par le retour aux sources, à la connaissance des langues anciennes pour lesquelles les humanistes se battent. Et le déracinement du texte sacré de son contexte religieux la nécessité de son traitement comme n'importe quel autre texte ancien, le développement de la pensée scientifique et l'affinement de la conscience historique vont s'imposer à partir de ce moment-là. Un dernier mot sur une étape fondamentale qui est la crise moderniste. Nous sommes pratiquement au début du XXe siècle et c'est alors que va commencer ce qu'on appelle cette crise moderniste. Le nom qui est attaché à cette période, c'est le nom de Loisy, qui connaît son point de tension extrême avec la publication de deux textes du Vatican qui vont condamner le modernisme, le décret du Saint-Office, Lamentabili, et l'encyclique de Pidis, Pascendi, sur les erreurs du modernisme. Ça nous semble très lointain, mais on ne peut pas oublier cette grande crise qu'a connue l'Église. Et Loisy qui reprochait à l'historien allemand Harnack ce qu'il voyait dans les textes de l'Écriture. Loisy répétait « Jésus n'a prêché rien d'autre que la venue du royaume, mais c'est l'Église qui est venue. » Donc, il y a toute une querelle, malheureusement très pénible, qu'a connue l'Église à ce moment-là. Mais l'Église va surmonter rapidement cette crise grâce à l'intervention en 1890 du père Lagrange. Le père Lagrange qui va ouvrir l'école biblique et archéologique de Jérusalem. Et en 1943, c'est Pie XII qui va publier une encyclique Divino Afflante Spirito, qui va marquer un tournant important. Le pape, maintenant, va encourager explicitement les méthodes scientifiques et le recours aux méthodes scientifiques. Passons à la dernière étape de Vatican II, avec la constitution dogmatique Verbum Dei. Verbum Dei qui... au paragraphe 24, affirme « Les saintes écritures contiennent la parole de Dieu, parce qu'inspirées, elles sont vraiment la parole de Dieu. » Vous voyez, cela signifie que l'écriture contient la parole divine et qu'elle la transmet par le biais de l'action de l'Esprit-Saint. Et cette compréhension amène traditionnellement à la reconnaissance de l'Écriture comme corps du Christ et donc comme sacrement de sa présence. Le Concile Vatican II va affirmer « Le Christ est présent dans sa parole, c'est lui qui parle tandis qu'on lit dans l'Église les Écritures. » Et donc il en découle une conception originale de l'Eucharistie comme double table, la table de la parole, et la table du pain eucharistique. Et ce dernier renseignement, qui est courant chez les pères, a été repris par plusieurs documents de Vatican II. On peut en déduire que l'Écriture a un statut quasi sacramentel à l'intérieur de la vie de l'Église. La parole qu'elle contient, la parole qu'elle dégage grâce à l'Esprit, a la capacité efficace de l'Alliance. Elle est un don offert à tout le peuple chrétien et un lieu de la présence divine. C'est grâce à l'action de l'Esprit-Saint que l'Écriture va transmettre une parole qui doit être accueillie non pas comme une parole d'homme, mais comme une parole de Dieu, et non pas simplement une parole sur Dieu. Et cette parole va nous introduire dans l'Alliance, dans une relation avec le Dieu vivant. Dernier document en date, la Commission biblique pontificale qui, en 1993, a publié un document très important intitulé « L'interprétation de la Bible dans l'Église ». Ce texte considère indispensable la méthode historico-critique pour une juste compréhension des Écritures. Mais cette méthode doit simplement chercher à clarifier les procédés historiques de production du texte biblique et son évolution. Cette méthode est critique parce qu'elle doit recourir à des critères scientifiques les plus objectifs possibles pour reconstruire le texte. et donc pour l'analyser ensuite du point de vue linguistique et littéraire. Ensuite, quelques exemples, il faut voir les unités textuelles, il faut voir les doublés, les répétitions, il faut déterminer le genre littéraire des textes. Il faut délimiter l'apport d'éléments traditionnels antérieurs au texte final et mettre en examen les ajouts propres au rédacteur final. Tout un travail scientifique qu'il faut faire que le document d'interprétation de la Bible dans l'Église accepte. Et le but de cette méthode est de parvenir, dans la mesure du possible, à trouver le sens du texte. Mais parce qu'aucune méthode ne peut s'élever au rang d'idole, parce qu'aucune méthode ne peut épuiser l'infinie richesse et la complexité du texte biblique, de nombreuses autres approches bibliques sont permises et sont précisées dans ce texte, l'interprétation de la Bible dans l'Église, la commission biblique pontificale. En particulier, il y a toute une présentation de l'analyse rhétorique, de l'analyse narrative, de l'analyse sémiotique, mais aussi l'approche canonique, celle qui se réfère aux traditions d'interprétation juive. C'est très important de découvrir les racines juives des textes. Le document est très important et essentiel là-dessus. Voilà donc plusieurs méthodes. Une dernière, l'histoire des effets du texte que les Allemands appellent la Wirkungsgeschichte. Quels sont les effets du texte sur la littérature mondiale, sur l'histoire de l'art et ainsi de suite. Et les documents seront pris en considération par la nouvelle édition de la Bible que prépare l'école biblique. La Bible et ses traditions. Il y aura en note d'abord le commentaire juif et en parallèle, il y aura le commentaire des pères de l'Église. Donc, c'est important de voir les racines du texte, mais aussi l'évolution de ces textes dans l'histoire de la tradition chrétienne. Et donc, le travail que nous allons entreprendre n'est pas simple. L'idée de scientificité ne répond pas à un seul modèle unique, univoque. Il y a les sciences historiques, il y a les sciences herméneutiques, celles du sens du texte. Et le sens des Écritures se trouve au-delà des mots. Il n'est pas dans la surface, mais dans la moelle, dans l'esprit des Écritures. Et interpréter un texte biblique, c'est libérer ses forces intérieures, mettre en lumière ses richesses cachées. Et la compréhension d'un texte biblique exige qu'on tienne en compte son efficience dans l'histoire. Interpréter, c'est aller au-delà des mots pour retrouver leur vie profonde. Vous voyez que la dimension archéologique d'un texte doit absolument être complétée par la dimension téléologique qui va au-delà de l'instant et du lieu où il fut prononcé. Saint Paul rappelait aux Corinthiens, la lettre tue, c'est l'esprit qui donne la vie, c'est l'esprit qui vivifie. Et c'est l'esprit qui seul est capable de nous conduire vers la vérité tout entière. Et donc, après ce survol très sommaire des manières de lire la Bible au cours de l'histoire, il faut nous demander à quoi est due cette nécessité de redécouvrir à chaque époque des nouvelles lectures de l'Écriture. Serait-ce que la parole de Dieu ne s'y laisse pas entendre clairement? La parole de Dieu est une réalité vivante, une parole efficace, éternelle, toute puissante, créatrice et même instauratrice d'histoire. Parole, d'abord en hébreu, signifie histoire, mais aussi événement. Et pour le Nouveau Testament, cette parole est le Fils même de Dieu, le Fils unique du Père, le Verbe qui était au commencement auprès de Dieu et qui s'est fait chair. Voilà donc une dimension qu'on ne peut absolument pas oublier. La parole de Dieu excède le livre. Elle atteint l'homme à travers la vie sacramentelle, l'histoire, les événements. Alors donc, ce n'est pas une lecture historico-critique que nous allons faire, mais c'est plutôt une lecture sapientielle de la Bible. Si la parole de Dieu ne devient pas une nourriture pour nous, elle va nous laisser sur notre faim. Elle va simplement nous poser des problèmes. Si la parole de Dieu ne nous livre pas l'eau vive de la parole, nous allons rester sur notre soif et nous allons chercher l'eau vive ailleurs. Et la tradition juive veut qu'après chaque étude de l'Écriture, on termine par une prière, la prière du Kaddish, que ton nom soit sanctifié. Parce que l'étude de l'Écriture dans la tradition juive est une sanctification du nom. Que ton nom soit sanctifié, ton nom soit glorifié et exalté. C'est cela le véritable but de l'étude de l'Écriture, sanctifier le nom de Dieu. Et c'est ce thème que Jésus a repris dans la prière qu'il a enseignée à ses disciples, que ton nom soit sanctifié. La fois prochaine, nous commencerons par le premier des patriarches, par l'histoire d'Abraham, notre père dans la foi.